Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous reprenons aujourd'hui la suite du livre « Du Gospel à l'Évangile », itinéraire d'un gospel singer africain, éditions Onésime 2000. Et nous retrouvons l'entretien entre Marcel Bungou et le journaliste Jacques Bonnadier. Je vous rappelle que la plupart des chants qui illustreront cette lecture seront interprétés par Marcel Bungou lui-même ou par des chorales gospel diverses. Nous apprendrons comment, vendeur dans une librairie à la tête d'une chorale d'église, Marcel Bungou a cheminé avec persévérance et foi pour en arriver au but qu'il s'était fixé. Il avait entendu un appel, la voix des anges, dit-il, et il y a répondu. Chapitre 3. Plus jamais l'école. Quand on pense négro-spirituel et gospel, comme quand on pense jazz, blues, soul, on pense au peuple afro-américain. Sais-tu si, parmi tes ancêtres, il y eut des esclaves déportés en Amérique? Peut-être des arrières-arrières, je ne peux le dire à coup sûr. Auraient-ils pu l'être, devenir des nègres du coton? Je ne sais pas. Je me souviens pourtant d'une histoire que me racontait ma mère. À l'époque où, chez nous, en Afrique, l'esclavage existait entre les tribus, quand on vendait, on achetait, on s'échangeait des esclaves. Son grand-père avait lui-même été vendu dans une tribu de sa région au Congo. Des Noirs qui vendaient des Noirs à d'autres Noirs? Exactement. Et donc, bien que ne connaissant pas l'histoire de mes ancêtres, je me dis qu'il y a eu peut-être parmi eux des esclaves quelque part et qui ont été déportés vers les Amériques. Aux Antilles, par exemple, j'ai trouvé des gens qui portent le nom de Bungou et d'autres qui ont le même nom qu'un village de chez nous au Congo. Mon ami Alphonse, l'un des membres des Palata Singers, a lui-même découvert en Guadeloupe une tribu venant du Congo. Ces gens ont gardé les noms, la langue, les danses du pays et c'est en rencontrant Alphonse qu'ils ont appris d'où il venait. Il s'agit de descendants d'esclaves qui ont été déportés et qui, se trouvant aux Antilles au moment de l'abolition, y sont restés. Et toi, t'identifies-tu à ce peuple d'esclaves? Il m'est difficile de m'identifier à eux, car je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. Mais je compatis à leur combat, qui fut celui de la recherche de la liberté. Je m'associe pleinement à leur cause. Une note concernant l'abolition. Abolition de l'esclavage. À partir de 1817, on assiste à une dénonciation de l'esclavage et à l'organisation de mouvements anti-esclavagistes. Ceux-ci voulaient affranchir l'ensemble des esclaves qui se trouvaient sur le sol des États-Unis d'Amérique. Au début des années 1860, éclate la guerre civile entre le Nord et le Sud, entre partisans et adversaires de l'esclavage, conflit qui aboutit en 1865 à l'abolition de l'esclavage. 4 millions de Noirs sont ainsi affranchis et se dispersent sur l'ensemble du territoire américain. Pour les Afro-Américains commence alors un nouveau mode de vie. Mais, fidèles à leur tradition, ils chantent leur nouvelle vie ou le souvenir de leurs souffrances passées. C'est un peuple à la recherche de son identité et de sa culture. C'est à cette époque que Lucy McKean Garrison, 1842-1877, entend chanter les esclaves noirs. Impressionnée, elle retranscrit aussi fidèlement que possible ses chants. ce qui l'amène à la publication d'un des premiers recueils de chants intitulé « Slave Songs of United States ». C'est le premier pas vers la consécration pour le répertoire des anciens esclaves noirs. C'est donc au Congo que tu es né en 1951. De quel Congo s'agissait-il alors? Il s'agissait du Congo Brazzaville, fruit de la colonisation française. Brazzaville était l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, AEF. Félix Eboué en était le gouverneur. Quand on parle de Brazzaville, on évoque automatiquement Savornian de Brazza, l'explorateur français d'origine italienne qui avait découvert la terre congolaise et s'y était installé à la suite d'un traité avec le roi d'une petite région, le roi des Bateke. C'est le traité Makoko, daté de novembre 1882. Au moment de ma naissance, le Congo était encore sous la gouvernance française. L'indépendance ne sera proclamée que le 15 août 1960, avec comme premier président de la République l'abbé Fulbert Youlou. Où ton enfance s'est-elle passée, à la ville ou à la campagne? À la ville, dans la troisième ville du pays, Dolisy. Celle-ci a été fondée par l'explorateur français Alfred Dolisy. On lui a donné son nom à la place de celui de Loubomo. Lorsque j'en suis partie en 1981, elle comptait 12 000 habitants. C'est donc à Dolisy que tu es allée à l'école. Oh, pas longtemps, jusqu'en CM2. À l'époque, il y avait l'école des Blancs et l'école des Noirs. Ce n'était pas de la ségrégation, mais de fait, nous étions séparés et nous ne nous retrouvions qu'à l'occasion de fêtes, à l'Alliance française par exemple. Parle-moi un peu de ta famille, de tes parents. Mon père était chef cuisinier. On le sollicitait pour des manifestations importantes dans de grands hôtels. Il travaillait aussi chez des coopérants. Il faisait la cuisine d'instinct et de la cuisine française, s'il te plaît. Il n'avait suivi aucune étude dans la spécialité, mais des maîtres français l'avaient initié. Je me souviens que lorsqu'il revenait de son travail, il nous rapportait souvent des mets succulents, des plats de viande, des gâteaux. Quant à ma mère, elle était femme au foyer avec 9 mômes, 7 garçons et 2 filles. Moi, je suis le 4e. Tu me disais être allé à l'école jusqu'au CM2. Tu l'as donc quitté petit? Pas vraiment. À notre époque, on entrait à l'école très tard. J'ai commencé le CP à l'âge de 8 ans. Il n'y avait pas de maternelle. Je n'ai donc rien appris avant. J'ai attendu l'âge de l'école en jouant comme tous les enfants et en allant dans les champs avec ma mère pour l'aider à ramasser les produits de nos plantations, soit pour les consommer nous-mêmes, soit pour aller les vendre au marché. Comment as-tu été élevé par tes parents? Cool ou à la dure? Les deux. Mes parents étaient tous les deux très religieux. Ils nous obligeaient à aller à l'église et ils étaient très attentifs à notre éducation. Mon père était un homme rigoureux. Il n'aimait pas les ratés. Il voulait que nous devenions quelqu'un. Mais à ce moment-là, l'école était très dure. Je parle de l'école française laïque. C'était une prison vraiment, et c'est ce qui a fait que j'en suis partie. Je me souviens très précisément du jour où j'ai dit « je n'irai plus à l'école ». C'était au cours d'une interrogation d'histoire-géographie. Je n'avais pas bien fait mes devoirs. J'ai séché. Et j'ai été punie. La punition consistait à recevoir des coups, et pas n'importe quel coup. La monitrice qui nous enseignait a pris un long bâton de bois. Deux camarades de classe, deux gars costauds, m'ont soulevé par les bras, deux autres par les pieds. J'étais suspendue en l'air, et elle m'a frappée très fort sur les fesses. Je me suis débattue, je suis tombée et elle a continué à me frapper. Quand je suis sortie de là, j'ai dit « plus jamais l'école ». Ma mère, me voyant revenir dans cet état, a voulu aller faire la peau à cette femme. Elle est partie l'attendre à son domicile. Mais celle-ci n'y est pas rentrée ce soir-là, se doutant sans doute qu'elle risquait d'avoir des ennuis. Mon père, quant à lui, m'a supplié de retourner à l'école. Je lui ai dit « non, c'est fini ». J'avais 15 ans. Ensuite, qu'es-tu devenue ? J'ai dû chercher le moyen de travailler pour me faire un peu d'argent. Pendant quelque temps, je suis allée tôt le matin transporter des colis chez les commerçants. Mais c'est devenu difficile. Finalement, ce n'est que vers mes 18 ans que j'ai trouvé du travail. Une librairie évangélique de la ville m'a engagée temporairement comme vendeur et elle a renouvelé cet engagement chaque année pendant les vacances avant de m'engager définitivement. J'ai alors assuré la responsabilité de gestionnaire du stock, puis celle de gestionnaire de l'entreprise. Ensuite, je me suis occupée de la nomenclature douanière de la société. Je suis restée 9 ans dans cette librairie. J'étais heureusement sortie du CM2 en sachant bien lire et écrire, mais pas plus. Tout ce que j'ai appris ensuite, je l'ai appris sur le tas, en me documentant dans les bouquins de la librairie, en suivant aussi un moment l'école du soir pour me former davantage. Avec ce bagage culturel, je me demandais ce que je pouvais faire dans la vie. Je me rendais compte qu'il fallait que je me batte pour acquérir des connaissances partout où je le pouvais. C'est ce que j'ai fait, en glanant par-ci, par-là, en lisant, en écoutant, à travers des rencontres, des contacts de toutes sortes. On s'étonne parfois que je chante en anglais. Je ne l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris grâce au chant, en le pratiquant dans l'interprétation des Negro Spirituals et des Gospels. Je ne peux peut-être pas tenir une grande conversation en anglais, mais je me débrouille. Le climat familial, celui d'une famille unie? Une famille très unie, père, mère et enfants. Mes frères et sœurs et moi-même étions très entourés par nos parents et cela nous a beaucoup aidés les uns et les autres. Qu'ont-ils fait de leur vie? Personne dans la famille n'est allé très loin dans les études. L'aîné et le troisième se sont engagés dans l'armée. Ils en sont sortis lieutenants. Ils sont maintenant à la retraite. Le second, aujourd'hui décédé, a été directeur de la Société nationale des eaux du Congo. Le frère qui est juste après moi a lui aussi formé un groupe de gospel. Il est au Cameroun. Un autre petit frère est directeur de la Société des eaux dans une région du Congo. Le dernier fils, qui était musicien, est mort à l'âge de 20 ans. Mes deux petites sœurs vivent à Pointe-Noire. Elles sont mariées et elles élèvent leurs enfants. Nos parents sont passés dans l'au-delà. Et je dois dire que je les honore beaucoup. Ils ont vraiment marqué ma vie, surtout par leur foi. Ma mère n'est pas seulement la femme qui m'a donné la vie. Elle m'a fait naître spirituellement. Elle m'a conduit et formé à la foi et à la morale chrétienne. C'est donc dans ce contexte qu'est née ta passion du chant. Est-ce que l'on chantait à la maison? On chantait beaucoup. Mes parents chantaient à la maison, mais aussi dans des groupes à l'église. Mon père était à la chorale de l'église. En fait, c'est moi qui l'y ai entraîné. Quand j'y suis entrée, il m'a suivie. On y chantait des chants classiques, des chorales telles que ceux que l'on entend ici en France, dans les églises protestantes. « Grand Dieu, nous te bénissons, à toi la gloire !» Des chœurs du Messie de Handel. C'était le répertoire de notre église évangélique protestante du Congo qui avait été fondée par la mission évangélique suédoise. Le recueil que nous utilisions comprenait un chapitre de chants d'église où il y avait aussi des Negro Spirituals et des Gospels comme « Swing Low, Sweet Chariot ». My Lord, What a Morning, ou encore Jordan Roll. Par la suite, je me suis mis moi-même à composer des chants inspirés de rythmes africains et en langue congolaise. Et ces chants se sont répandus peu à peu dans les chorales du pays, au point de devenir des chants populaires. Il m'arrive de voir mentionner ces œuvres sur les feuilles que je reçois de la Société des auteurs. Quelle musique écoutait-on chez toi? Y avait-il un électrophone à la maison? Enfant déjà, sur le petit poste de radio à transistor de mon père, on écoutait de la musique venant de partout. J'étais attirée par les stations étrangères qui diffusaient de la musique anglo-saxonne. J'écoutais aussi de la musique africaine, bien sûr, mais ma préférence allait aux chanteurs de jazz et de variété américaine. Ray Charles, Otis Redding, Percy Sledge, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Elvis Presley, etc. Et parmi les chanteurs de spiritual ou de gospel, Paul Robeson, Mahalia Jackson, le Golden Gate Quartet. Lorsque j'ai eu un électrophone, le premier disque de Negro Spiritual que j'ai acheté était celui d'un groupe qui s'appelait Les Compagnons du Jourdain. Quand j'ai su qu'il s'agissait d'un groupe français, je me suis dit « Cela, il faudra que je les rencontre un jour. » Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque nous sommes arrivés en France avec les Palata, nous les avons rencontrés. Nous avons même chanté ensemble par la suite. Ils étaient devenus les Compagnons de l'Arche, dirigés par le pasteur Jacques Fischer. Tout en chantant dans la chorale de mon église, j'ai donc continué à me documenter, à acheter des disques, Jimmy Cliff, Bob Marley et d'autres encore, et ainsi à enrichir considérablement ma culture musicale. Et pour la musique classique, à part les quelques morceaux que nous chantions à l'église, j'en ignorais tout. C'est plus tard, lorsque je me suis mis à prendre des cours de musique, que je l'ai vraiment découverte et que j'ai commencé à en mettre des pièces au programme de la chorale. Ton compositeur préféré? Jean-Sébastien Bach. Chapitre 4. La voix des anges. S'agissant de ta carrière de chanteur, de compositeur, de chef de chœur, peut-on dire qu'elle est née d'une vocation? Je pense que oui, on peut parler d'une vocation et je l'ai ressentie très jeune. J'avais quelque chose en moi que Dieu me poussait à aller dire, à témoigner aux autres. J'ai perçu clairement qu'il m'appelait à leur apporter le réconfort, la paix, la joie, à les exhorter. Cet appel, quel en a été le déclic? T'en souviens-tu? Il se situe très précisément lorsque j'avais 9 ans. Un jour que je jouais près de notre église à Dolisie, j'ai entendu une mélodie qui provenait de cette église. Il y avait là quelque chose d'étrange, car l'édifice était en construction. La toiture n'avait même pas été posée et on ne pouvait penser un instant qu'un groupe s'y était rassemblé pour y chanter. Mais alors, d'où provenait ce chant? J'ai voulu en avoir le cœur net. Je suis entrée dans l'église en travaux. Le son s'est fait alors plus audible, plus présent, mais sans que j'aperçoive personne. Je suis allée jusqu'à la tour, au clocher, qui n'avait pas de toiture non plus. Et c'est là que, à ma grande surprise, j'ai aperçu des images comme des ombres de personnes planant tout en haut en chantant cette mélodie dont les paroles étaient dans notre langue congolaise. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis sortie en courant pour appeler ma mère. « Maman, maman, viens voir, il y a des gens qui sont en train de chanter à l'église. » Elle est aussitôt venue, en courant elle aussi. Et elle a vu et entendu la même chose que moi. Alors, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit simplement « Ce sont des anges qui chantent la gloire de Dieu. » Et à ce moment-là, à ce moment précis, j'ai senti une force me traverser. Ce n'était pas un rêve. C'était du direct, comme un appel, comme si Dieu m'appelait, exauçant ainsi la prière de ma mère, qui lui demandait sans cesse, elle me l'avoua ensuite, de choisir parmi ses enfants un serviteur. Et quand j'ai senti cette chaleur m'envahir, j'ai aussitôt été saisie par le désir de chanter. Après ce que j'ai entendu, il faut que je chante moi aussi. Et j'ai demandé à mon père de me faire entrer à la chorale. Mais j'étais trop jeune. À 9 ans, on ne pouvait m'admettre dans cette chorale d'adultes. C'est donc à 13 ans que j'y ai été admis. Et à 15 que j'en ai pris la direction. Car peu de temps après ce fameux jour, je m'étais mis à écrire des chants. Les gens se sont alors aperçus que j'avais un don, que je composais des mélodies, que j'inventais des harmonies sans avoir jamais fréquenté l'école de musique. Et c'est en voyant que j'avais ce talent que les responsables de la chorale m'ont demandé de les diriger. J'avais donc 15 ans. Voilà l'histoire de cet appel. Mais je ne t'ai pas cité les paroles en français du chant bien connu que j'avais entendu dans l'église. Le ciel chante les louanges de l'Éternel et la terre est remplie de la gloire de Dieu. Toi, tu chanteras ces cantiques avec les anges dans le ciel, mais crois seulement que le salut est en lui. Tu as entendu la voix des anges? C'est une très belle histoire. À quel âge ton éducation musicale a-t-elle vraiment commencé? Elle est venue à moi toute seule, par le seul désir d'apprendre. Dans mon église, on avait organisé des journées de la jeunesse. On devait participer à des camps pour y apprendre tout ce que l'on voulait, notamment la musique et le chant. Je m'y étais inscrit et j'y représentais ma paroisse. La rencontre a duré 21 jours. J'y ai beaucoup appris. J'y ai acquis les bases du solfège. Je m'y suis perfectionnée dans l'écriture et la composition, et ce, grâce à un grand pédagogue que j'appréciais beaucoup, Alexandre Nkuka. Durant ces 21 jours, il a été mon mentor, et ensuite, il a continué à m'enseigner, à m'encadrer musicalement, y compris dans la direction de la chorale. Il est aujourd'hui auprès du Seigneur. Et quelle pratique musicale! Avais-tu touché un instrument durant ces 21 jours? Oui, mais déjà avant ce rassemblement, j'avais remarqué que j'avais quelques dons dans ce domaine-là. Dès que je touchais un instrument, j'en jouais. Lorsque je suis entrée à la chorale, je me suis intéressée à la guitare. Je m'amusais à fabriquer quelque chose qui y ressemblait avec les bouts de bois et des fils de pêche en guise de cordes. Et je grattais là-dessus. Certains membres de la chorale jouaient bien de cet instrument et je leur demandais de m'initier. Ils m'objectaient. « Tu es trop petit, tu n'y arriveras pas. » Alors, j'ai demandé à mon père de m'acheter une guitare. et il l'a fait. On était une famille très modeste. Il y a mis ses maigres économies. Et j'ai appris à jouer tout seul, en regardant les autres. Je voyais comment ils posaient leurs doigts sur le manche et rentraient chez moi. Je reproduisais la même chose et jouais encore. C'est ainsi que j'ai appris la guitare. Ensuite, je me suis intéressée à l'accordéon. Et là, même scénario. Je suis allée voir un frère de l'église qui en jouait superbement. Il m'a montré comment poser mes doigts sur les touches. J'ai reproduit ça sur l'instrument à clavier de la chorale. Et avec lui, j'ai même inventé des mélodies. J'ai joué longtemps de l'accordéon avec la chorale. Plus tard, je me suis intéressée au piano. D'abord en m'exerçant un peu sur l'orgue de l'église. Puis en France, lorsque je suis allée à l'école populaire de musique de Montreuil. J'y ai appris les rudiments du piano jazz avant de me perfectionner dans la discipline avec un ami pasteur, Harry Anderson. Je suis loin d'être un pianiste virtuose, mais je peux m'accompagner au chant sans problème. Et quel travail de la voix! Comment t'es-tu aperçu que tu avais une voix de chanteur? Dans ma jeunesse, avant même la fondation des Palatas, je participais à des rencontres de jeunes au cours desquelles je chantais. On me disait « Tu as une belle voix !» Dans la chorale, où j'étais souvent soliste, on me disait la même chose. Mais il a fallu que j'arrive en France pour me convaincre qu'il ne suffit pas d'avoir ce qu'on appelle une belle voix. Il faut la travailler. Je suis donc allée voir des professeurs de chant. Mais j'ai été le plus souvent déçue. La formation qu'ils me donnaient ne me correspondait pas du tout. C'était une formation très classique. Et je leur posais des questions auxquelles je n'obtenais pas de réponse. C'est à ce moment-là que j'ai appelé un de mes parrains, Clyde Wright, du Golden Gate Quartet. Et je lui ai dit « J'ai besoin de toi et de tes conseils. Il faut que tu m'entraînes. »« Pas de problème, » m'a-t-il répondu. Il m'a reçu durant 2 heures. Et en 2 heures, il m'a débloqué. D'un seul coup. « Va, » m'a-t-il dit alors, « et travaille avec ça. » Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait ce qu'il m'avait enseigné, c'est-à-dire développer ma voix dans les aigus pour atteindre des octaves que je n'avais encore jamais atteintes. Grâce à lui, j'ai appris à pousser ma voix, à l'amplifier au maximum. Clyde m'avait dit « Si tu parviens à chanter très fort, tu arriveras d'autant mieux aussi à chanter doucement. » À partir de ce moment-là, je n'ai plus arrêté de vocaliser. Je faisais des vocalises tout le temps et partout, jusque dans les toilettes. Il m'a aussi incité à me référer à d'autres pour acquérir de l'expérience et me forger ma propre identité. Les autres, c'était Clyde Wright lui-même. J'aimais beaucoup son timbre, ou des gens comme Elvis Presley ou Percy Sledge qui me poursuivaient sans cesse. Et depuis, as-tu toujours travaillé seul? Oui. Et je continue toujours à travailler. De mon côté, ou avec les partenaires avec qui je répète, il m'arrive parfois de chanter jusqu'à 7 heures par jour pour voir jusqu'où mon endurance peut aller. Revenons au Congo et à la chorale de la paroisse. Quel en était le répertoire? C'était un répertoire d'église, avec des chants repris de la tradition luthérienne, et puis des chants congolais. On chantait aussi des chants de réveil, c'est-à-dire des chants inspirés par l'Esprit Saint et que l'on reprenait sous forme de chorale. Et c'est de cette chorale que tu as pris la direction à l'âge de 15 ans? As-tu été accepté d'emblée pour cette fonction? Oui, le jour où le chef de la chorale nous a dit qu'il était muté dans une autre région, il a annoncé lui-même que c'était moi qui allais le remplacer. Et j'ai été ainsi intronisée officiellement. C'était évident du bénévolat absolu, du 100%, mais je travaillais à la librairie. La librairie, ce n'était pas une vocation. Non, ce n'était qu'un passage, mais cela m'a aussi beaucoup apporté, notamment pour ma culture générale. J'y ai appris beaucoup de choses. Je lisais énormément de livres. Pas seulement des livres religieux, des romans policiers, d'espionnage, tous ceux qui me tombaient sous la main. Même des livres de science ou de maths auxquels je ne comprenais pas grand-chose. Comme si je voulais rattraper le temps perdu. Libraire, c'était un métier, tu aurais pu persévérer. Tu as obliqué vers le chant. Te souviens-tu du moment où tu as eu l'idée de faire chanteur? Non, je ne pouvais même pas imaginer que chanter pourrait devenir un métier. La seule chose que je m'étais dite étant gosse, quand je commençais à chanter et à écrire des chants, c'est « un jour, je ferai un disque ». Oui, je voulais un jour enregistrer mon disque. À l'époque, je suivais des cours de formation biblique par correspondance avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et j'avais demandé à la Ligue si elle pouvait aider à cet enregistrement. On m'a répondu que l'on pourrait peut-être m'aider à trouver une société à même d'en assurer la réalisation. Mais il n'y a pas eu de suite. Mais alors, d'où est venue ta décision? Y a-t-il eu un déclic, là aussi? Les choses se sont faites petit à petit. Lorsque je dirigeais la chorale de l'église, j'avais toujours l'idée de former de petits groupes pour permettre aux gens de chanter ensemble. J'en avais constitué un composé de 12 personnes, comme les 12 apôtres, avec lequel je chantais pour les fêtes et les anniversaires. Et dans ce groupe d'amis, nous étions 4 particulièrement motivés. C'est l'un des 4, Alphonse, dont je t'ai déjà parlé, qui en 1972 a proposé que nous formions un quartet. Voilà comment nous avons monté cet ensemble de 4 voix masculines qui s'appelait les Perles. Très vite, nous avons été sollicités d'aller chanter ici et là. La première fois, c'était à l'Armée du Salut, à Brazzaville, à l'occasion d'un anniversaire dans la famille du colonel Munch. On y a chanté notamment devant un coopérant du Centre culturel français et celui-ci en a tellement été touché qu'il nous a demandé de venir faire une audition au centre. Nous nous y sommes rendus en 1977 avec la cassette que nous avions enregistrée de nos répétitions. Elle contenait des Negro Spirituals, parmi lesquels Owen the Saints, très librement adapté et traduit par nous en langue congolaise. Le directeur de l'époque, Patrick Peteuil, l'a écouté et il n'en a pas cru ses oreilles. Il nous a dit « Ce n'est pas vous qui chantez, ce n'est pas possible !» Pour le convaincre, nous sommes allés chercher la guitare et nous avons chanté devant lui. À peine avions-nous fait 3 notes qu'il nous a arrêtés. « Oh, ok, je suis convaincu, c'est bien vous !» Et il nous a tout de suite programmé pour un concert. Et en plus, en nous proposant un cachet. Quoi? On peut gagner de l'argent en chantant? Voilà ce que je me suis dit à ce moment-là, en janvier 1977. Et voilà comment le temps de considérer le chant comme un travail est arrivé. Les questions sont arrivées aussi. Dans la librairie où je travaillais, on me sollicitait de prendre la direction de l'entreprise. Et cela faisait problème. De plus, voyant nos premiers succès, L'Église s'est mise à trembler et a tout fait pour nous en empêcher d'aller plus loin. Elle voyait d'un très mauvais œil que nous nous produisions hors de son sein dans les lieux publics. Nous, on chantait là pour propager l'Évangile, ce que contestaient les gens d'Église. Après la naissance des perles, que s'est-il passé? Avant même les perles, notre groupe s'appelait les troubadours de l'Évangile. On était 12, je te l'ai dit. Puis, on en est venu en 1977 à former un groupe de 5 qui s'est ensuite réduit à 4, les perles, que l'on a traduit en palata en 1984, 2 ans après notre arrivée en France. Les palata, ce sont les perles en congolais. On a traduit le nom à cause de sa connotation féminine. Les perles ne pouvaient être que des perles noires, donc des filles. Les palata, c'est tout ce qui brille. Les palata singers, c'était parfait. Qui étaient les 4 du groupe? 4 garçons qui venaient de paroisses différentes de la même église. Des copains qui s'étaient choisis en fonction de leur voix et de leur personnalité complémentaire. Avant nous, d'autres groupes vocaux congolais étaient venus en Europe. Les échos noirs, les cheveux crépus, les Mbamina. Ces derniers y ont révolutionné la musique africaine. Les palata, quant à eux, ont commencé à tourner dans les pays d'Afrique. Une grande tournée de 2 ans qui nous a valu d'être invités ensuite au Festival de musique populaire de Dresde, dans l'Allemagne de l'Est de l'époque. Nous y avons remporté le premier prix du jury avec nos Negro Spirituals et nos Gospels en Kikongo. C'est là que j'ai commencé vraiment à me dire « Chanter, c'est ma carrière, c'est ma vie ». Il a fallu alors décider de quitter tous les 4 nos métiers respectifs. J'ai posé une mise en disponibilité de 3 ans à la librairie en disant à mes employeurs « Si le chant ne marche pas, je reprendrai le boulot. » 3 ans après, quand je suis retournée au Congo, l'entreprise avait déposé le bilan. Et moi, j'étais devenue chanteur définitivement. Non seulement Marcel Bongou avait une voix, mais il avait beaucoup de facilité pour jouer d'un instrument. Il a écrit « J'avais remarqué que j'avais quelques dons dans ce domaine. Dès que je touchais un instrument, j'en jouais. » Avoir des facilités pour faire quelque chose n'est pas suffisant. Nous avons vu tout le travail qu'il a fait pour perfectionner, pour utiliser à bon escient les dons qu'il avait reçus dans de nombreux domaines. Nous avons lu aussi Je me rendais compte qu'il fallait que je me batte pour acquérir des connaissances partout où je le pouvais. C'est ce que j'ai fait, en glanant par-ci par-là, en lisant, en écoutant, à travers des rencontres, des contacts de toutes sortes. J'ai noté aussi cette phrase « Oui, je continue toujours de travailler, de mon côté ou avec les partenaires avec qui je répète. Il m'arrive parfois de chanter jusqu'à 7 heures par jour, pour voir jusqu'où mon endurance peut aller. » Je termine la lecture du jour avec cette phrase de Marcel Bongou lui-même. « Le gospel n'est pas une question de talent, c'est une question de foi. C'est la foi en Christ qui vous fera différent. C'est grâce à elle que votre chant changera les choses et que vous transformerez le monde. » À bientôt, chers auditeurs, et n'oubliez pas, je lis pour vous sur Radio Alliance Plus. Écoutez la suite en direct ou en podcast sur le site de la radio.